Les conflits sociaux, une bataille et des images dans l'actualité des idées aujourd'hui. La diffusion ce soir pour Arte du film « On va tout péter » du documentariste Lech Kowalski. Le réalisateur britannique d'origine polonaise et qui vit entre les États-Unis et la France a filmé d'abord, plus jeune, les Sex Pistols ou encore Iggy Pop, baladé sa caméra dans les coulisses de la scène pub rock, parcouru les villes américaines sinistrées, filmé des artisans cordonniers de Cracovie dans The Boot Factory ou encore des paysans en lutte pour garder leurs terres dans Holyfield, Holy War. Le revoici en France, plantant sa caméra dans une usine d'équipement automobile menacée de fermeture aux côtés de ses 277 salariés en lutte, les GM et S de la Creuse. On était alors en 2017.
Oui, ça va être une semaine très très importante. La décision, le couperet, comme on dit malheureusement, le couperet va tomber. Et alors là... On ne sait pas comment sera l'attitude des gens. Ça, à mon avis...
Ça ne va pas être bon.
Ça ne sera pas...
Pas terrible.
Ça ne sera pas du gâteau. À mon avis, l'issue va être, pour moi ou pour d'autres, après, ce sera le repreneur. Je pense que ce sera le repreneur qui fera le seul boulot. Ce que veut dire le seul boulot, ben, licencier les personnes. Bon, mais ça sera, malheureusement, ça sera dans la douleur. Il y aura... On voudrait bien que... Que tout le monde soit repris, mais bon.
Moi, je crois pas trop à ce groupe-là.
Il y aura de la classe sociale.
Je crois pas, parce que dans 3 ans, ça recommencera. Ouais. Ils vont licencier dans 3 ans et ça sera pareil. Moi, je voudrais que la usine reprenne de A à Z et pas les licenciements, quoi. Il faudrait que les gens nous aident maintenant. Le gouvernement, il faut qu'il nous aide. Parce que moi, j'ai peur qu'il y ait un malheur. C'est pour ça que je vous dis ça. Ça me fait mal au cœur de voir mon mari pleurer et d'autres personnes, quoi.
Bien sûr. Depuis, l'entreprise a été reprise. Une partie des salariés y travaille toujours, au nombre de 120. L'autre est restée sur le carreau, dont vous, Jean-Marc Ducourtiou, ancien salarié de GMS. Bonjour.
Bonjour.
Et ancien salarié en lutte devant la caméra de Lech Kowalski, présenté cette année à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Le film s'appelle donc « On va tout péter » et sera diffusé ce soir à 22h55 sur Arte, disponible jusqu'au 22 août sur arte.tv. À l'occasion, précisons-le, d'un festival, le festival du documentaire de la chaîne, qui aura lieu jusqu'au 27 juin et que nous accompagnons ce midi avec vous, Lech Kowalski, et demain avec Karim Aynouz, réalisateur de Berlin Tempelhof. Un film là sur la politique d'asile mise en œuvre par l'Allemagne. On vous en reparlera dans la deuxième partie de la Grande Table. Bonjour Lech Kowalski.
Bonjour.
Et bonjour à votre voix française, Xavier Combe. Bonjour.
Bonjour.
On va tout péter, un titre qui pourrait être celui d'une chanson par hasard des Berruriers Noirs, vous qui êtes fan de rock, de punk ou autre, mais qui sont en fait les mots choisis par les salariés au plus vif de la lutte. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quelle occasion, Jean-Marc Ducourtiou, comment ces mots ont été inscrits sur une citerne ?
Comment ces mots sont inscrits sur une citerne, c'est bien simple. Nous, ça faisait déjà à peu près 6-7 mois qu'on se battait, qu'on essayait de faire venir des journalistes nationaux pour s'intéresser à notre problématique. Le souci qu'il y a ici, c'est en France, c'est que si on fait pas quelque chose d'extraordinaire, on n'intéresse personne. Donc c'est pour ça que ça en est arrivé là. En fait, on avait essayé, par l'intermédiaire de TF1, France 2, tout ça, d'essayer d'intéresser les gens à notre combat. Nous, on avait toute la région derrière nous déjà. Mais ce qu'on voulait, c'est que notre combat soit mené nationalement. Donc on en est arrivé là. Et quand les journalistes nationaux sont venus sur ce fait, en fait, la première chose qu'ils nous ont demandé, mais pourquoi vous avez fait ça ? Ben, j'ai dit, c'est bien simple. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on parle du fond de notre problème. Vous êtes là, maintenant, on va en parler. Voilà pourquoi on en est arrivé là.
Voilà, la bombe n'a pas été enclenchée.
La bombe
jamais,
n'a pas été enclenchée.
À aucun moment. Mais la bombe, elle était bien là et elle est branchée, disent deux syndicalistes que vous amenez avec vous, Lech Kowalski, à la Souterraine, dans la Creuse. Deux syndicalistes de l'Oise que vous aviez rencontrés plus tôt lors d'un autre film que vous aviez amorcé et que vous n'avez jamais fini de monter. Qui sont ces deux hommes ?
Well, it's... First of all, thank you for inviting me and also for this last minute confusion with Jean-Marc here because it's very important that
avant toute chose, merci
the,
pour m'avoir invité et merci d'avoir élucidé les choses avec Jean-Marc.
The film, but what happens after the film is made.
Les salariés sont impliqués pendant le film, mais aussi après le film. C'est formidable d'avoir Jean-Marc à mon côté. Au début, je voulais faire un documentaire sur ce qu'il advient aux salariés laissés sur le carreau. Il y a 10 ans, j'ai fait un premier film et dans leurs dernières actions, ils ont menacé de mettre une bombe et de tout péter eux aussi, parce qu'ils étaient désespérés. Je suis revenu à l'usine, j'ai retrouvé les salariés, j'ai trouvé tout cela fort, fort déprimant et très dur de faire un film qui aurait un retentissement. En effet, le film porte sur un problème, et moi je voulais faire un film qui montre comment les gens se battent pour éviter des problèmes que d'autres ont connus avant eux. Donc, à mesure que je travaillais, Odile Lal, producteur du film, a entendu ce qui se passait chez les GMS et elle m'a appelé. Il y a des salariés qui menacent de tout faire péter là-bas. Et je me suis dit, voilà, c'est étonnant. Donc, j'ai invité deux syndicalistes que j'avais rencontrés précédemment pour venir sur place, pour essayer de voir les choses par leurs yeux. Et je me suis dit, peut-être que je peux trouver un angle intéressant pour raconter mon histoire. Cette histoire, pas mon histoire, mais cette histoire. Et au bout de 2 heures, je me suis rendu compte, mais oui, voilà, c'est cette histoire-là que je vais raconter, celle des GMS.
Jean-Marc Ducourtiou, on l'apprend dans le film de Lech Kowalski, où vous êtes, bien sûr, avec d'autres, que la plupart des salariés de cette entreprise, GMES, travaillent là depuis 25, 26, 27, 30 ans environ. Vous, ça fait combien de temps ?
31 ans exactement.
31 ans exactement. Vous êtes là-bas depuis 31 ans, est-ce que c'est la première fois ? Était là-bas depuis 31 ans, vous êtes au moment du tournage par Lech Kowalski. Est-ce que c'est la première fois que vous avez à vous battre de cette manière-là ? Parce que le film le raconte aussi. Cette entreprise, elle a été à de multiples reprises rachetée par différents propriétaires. Ça n'a pas cessé de changer de main. Vous, vous êtes délégué le CGT. Est-ce que c'est la première fois que vous mettez en œuvre un tel combat pour vos droits et les faire respecter ?
Ben disons que nous, c'était pas la première fois parce qu'on a changé en fait plus de 10 fois d'enseigne. On en était, quand l'équipe est arrivée, on en était au moins au 3e plan social. Donc on était monté, c'est une boîte qui date de 1963, c'était une petite boîte familiale. Et malheureusement, dans les péripéties, quand il a grossi, il a fallu qu'il s'épaule financièrement et il s'est mal épaulé financièrement. Et après, on était avalé par des requins, de moins en moins scrupuleux. Et après, une fois qu'on est tombé à la barre des tribunaux, après, c'est carrément des fossoyeurs qui venaient nous racheter. Et ce qui fait qu'on restait 1 an, 2 ans et avec eux. Et une fois qu'ils nous avaient rincés, on refaisait un plan social, on se faisait racheter par un autre fossoyeur. Mais tous ces fossoyeurs-là qui nous rachètent, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, c'est quand même les donneurs d'ordre qui les font racheter. Parce que nous, on avait d'autres candidats qui pouvaient nous racheter à une certaine époque où on était encore présentable, on va dire, financièrement. Et les donneurs d'ordre, qui sont PSA et Renault, c'est nos principaux gros clients. C'est pour ça qu'on appelle des donneurs d'ordre. C'est pas n'importe quel client parce qu'on fait des produits spécifiquement pour eux. On travaille spécifiquement pour eux. Et on est dédié spécifiquement pour eux. Donc c'est pas un client ordinaire. C'est un donneur d'ordre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, à chaque fois, c'est eux qui choisissaient ces gens-là. Nous, on a eu, à un moment donné, dans les années 2009, on en a eu 3 qui sont venus et ils nous ont dépouillés en 5 ans, quoi. Parce qu'en fait, c'est PSA qui mettait en place un groupe de sous-traitance. Parce que soit c'est PSA, soit c'est Renault, des fois, selon le chiffre d'affaires que l'usine a à faire, en fait. C'est celui qui a le plus gros chiffre d'affaires qui doit régler le problème. Donc là, entre autres, c'était PSA. Et ils nous ont foutu trois gugus qui nous ont dépouillés. Parce qu'en fait, ils les faisaient racheter. Mais il y a beaucoup de boîtes qui étaient pas rentables. Nous, à l'époque, on l'était. Et donc, on a été dépouillés. En quelques années, ils nous ont pillé de 9, 10 millions d'euros sur une petite boîte comme la nôtre. Et puis, en plus, aucun investissement, aucun retour de clientèle autre. Donc, ce qui fait qu'ils nous ont dépouillés, quoi.
Et une partie de la production qui est envoyée ailleurs, hein, ce que vous racontez aussi.
Alors là, c'est après, c'est le coup d'après, ça. Parce qu'après, alors eux, ils nous ont foutu carrément en l'air. On est passé devant le tribunal de commerce de... Là, c'était Paris. Et là, on a été racheté par un Italien qui s'appelle Monsieur Cola. Et lui, ça durait 2 ans. Il voulait absolument pas qu'on s'occupe de la clientèle PSA. Il voulait que ce soit uniquement que lui qui s'en occupe. Ce qu'on s'est aperçu plus tard, c'est que PSA s'est servi de Monsieur Cola pour doubler les productions. Parce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans notre petit business, à chaque fois qu'on arrache une affaire, une petite pièce à faire à droite ou une petite pièce à faire à gauche, on est les seuls à le faire. Parce qu'en fait, il y a des moules, ça coûte excessivement cher à chaque fois. Donc, ce qui fait qu'on est les seuls à faire ce type de produit. Et ils se sont servis de PSA, enfin, PSA s'est servi de Cola pour, en fait, doubler leur production et nous rendre dispensables à leurs yeux. Et on s'en est aperçu justement pendant l'ère Cola, où on recevait des pièces défectueuses qui venaient d'ailleurs, du Brésil ou d'ailleurs, voilà. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, que PSA voulait se débarrasser de nous, et c'est ce qui s'est passé.
C'est le premier combat aussi long que vous ayez eu à mener, vous ?
Ah oui.
Oui ?
Oui, oui. On en a mené des combats, mais c'est le combat le plus dur.
On va parler des formes qu'ont pris aussi ce combat, de la médiatisation qui était essentielle et que vous avez évoqué dès l'ouverture quand on parlait de cette discussion, de ces mots qui figuraient en dessous de cette bombe que vous aviez placée sur une citerne. On va tout péter, et les autres moyens de lutte que vous avez mis en œuvre pour vous faire voir, pour vous faire entendre, pneus brûlés, concert de casseroles devant la préfecture, blocage des camions des usines Renault et Peugeot dont vous étiez les sous-traitants, ou encore blocage d'autoroutes. Écoutons un extrait.
Allez, vas-y, roule ! Ouais, viens voir ! On va être licencié, de toute façon, on risque plus rien. Allez, madame, on n'est pas venu là pour me faire du mal. Tout le temps, vous penserez à nous.
Ouais, vous penserez, et puis vous appellerez peut-être des gens de l'extérieur pour vous défendre.
Parce que c'est ça qui se passe. Hein. La roue, elle tourne, mais elle tourne pour tout le monde. Hein.
Non, on rigolera, là.
Pour l'instant, vous ne bougez pas, tant que vous n'avez pas d'engagement écrit de Peugeot.
Tout à fait. Tout à fait.
Donc là, le blocage continue.
Bien sûr. Bien sûr que le blocage continue. Vous demandez aux collègues, vous croyez qu'ils vont partir comme ça?
Vous craignez l'intervention des CRS?
Vous savez, on risque quoi? Qu'est-ce qu'on risque? Là, on est tous en sursis. Si on est là, vous croyez que ça nous fait plaisir? On les a prévenus, on leur a dit. Faites ce qu'il y a à faire, sinon nous, on va aller le faire. Et c'est ce qu'on a toujours fait depuis le début. En restant responsable, digne, il n'y a pas de problème, on ne casse pas. On fait une lutte, c'est pour nos familles qu'on fait. C'est pas pour faire beau. C'est que demain, il faut que tout le monde bouffe. Les ouvriers, ils ont quoi pour se battre? Ils ont quoi? Qu'est-ce qu'on a comme moyen, à part la lutte? On vous fait travailler pendant 30 ans, 40 ans, du jour on n'a plus besoin de vous, ben merci, au revoir. Quand vous passez 30 ans dans une usine ou 40 ans, vous savez faire quelque chose dans cette usine. Vous êtes quelqu'un dans cette usine. Mais sorti de l'usine, vous ne savez plus rien faire. C'est toute notre vie, c'est-à-dire.
Dans le film, il est dit qu'il n'y a pas de stratégie. Rien n'était décrit à l'avance, Jean-Marc Ducourtiou, que c'était de l'improvisation permanente. Qu'est-ce que vous avez appris durant ces mois de lutte, de combat, sur la manière?
Il faut être opportuniste. Et puis se faire entendre où on peut se faire entendre, voilà.
Ça veut dire quoi être opportuniste?
Ben, c'est-à-dire choisir, avoir, dès qu'on a une occasion...
Saisir l'opportunité.
Saisir l'opportunité, voilà.
Toutes les opportunités.
Voilà. On a mené à peu près entre 60 et 65 mouvements, à peu près, sur plus d'un an. Enfin, 10 mois, allez.
Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché... ce qui a marché, c'est qu'on a l'usine n'est toujours pas fermée, il y a encore 120 personnes... Mais ce qui n'a pas marché, c'est que j'aurais préféré que les 277 y restent. Voilà. Si j'avais un truc à dire, c'est ça.
À la fin du film, l'un d'entre vous dit c'était un très beau combat. Il a les larmes aux yeux et il dit c'était une belle lutte. Ça a montré un sens du collectif. Ça a montré une convivialité aussi entre nous.
Je ne sais pas si vous imaginez, on n'était que 277 et on s'est battu contre des gens qui représentent rien que PSA, 70 000 salariés. Renault, je ne sais pas combien. Voilà, donc c'était le pot de terre contre le pot de fer. Donc oui, effectivement, oui, par rapport à l'impact qu'on a donné médiatiquement parlant, j'estime qu'on a été, oui, je pense qu'on a été à la hauteur.
Et vous êtes restés soudés.
Et on est restés soudés.
Lech Kowalski, dans votre manière de penser ce film aussi, vous diriez qu'il n'y avait pas non plus de scénario préécrit. Vous y êtes allé, vous aussi, à l'instinct. Vous vous êtes adapté, vous avez improvisé avec votre caméra la manière de filmer ce conflit.
Let me answer maybe this way. When I arrived there,
je vais répondre en vous disant ceci. Arrivé sur place, je n'ai pas dit aux salariés que je faisais un film. Je ne voulais pas me lier d'amitié avec eux. Je ne voulais pas faire un film de propagande pour eux. Il fallait que je me distancie et il fallait du temps pour que je les connaisse, pour connaître les uns et les autres. Pendant longtemps, ils ont cru que je faisais partie de la presse. Mais petit à petit, j'ai commencé à leur dire, eh bien, j'envisage de faire un documentaire. Je vais faire un film. Je travaille avec Arte. Et progressivement, ça a duré quelques mois, nous avons bâti une relation. Et à ce stade, ils ont commencé à me connaître comme individu, comme être humain, et pas simplement comme journaliste. Ils ont commencé à se rendre compte que je n'étais pas français, que je fais un documentaire. Ils se sont intéressés à moi. Moi, évidemment, je m'intéressais à eux. Et à partir de là, le film est né. Le scénario résulte des réalités que je filmais, mais en fait, c'était une expérience chargée d'émotions plus qu'autre chose. Le film, en fait, il est né en salle de montage, et là, c'est une expérience intellectuelle. Là, il a fallu que je rassemble tous les morceaux du puzzle, et j'ai tourné environ 500 heures de rush. Et j'ai tourné tant de rush parce que j'y ai passé beaucoup de temps, et on ne savait jamais, personne ne savait jamais ce qui allait se passer. Donc j'ai tourné, tourné et tourné jusqu'à ce qu'on arrive aux conclusions. Et même après les conclusions, réunion de l'usine et la reprise, j'ai continué à tourner parce que la lutte n'était pas terminée. Et en travaillant sur le montage, je voulais que le film fasse ressortir une impression de fiction. Donc c'est un film qui a des moments de divertissement, mais c'est un documentaire, il donne des informations, c'est un reportage, mais il est construit de telle sorte qu'on n'apprend pas des choses aux spectateurs. C'est quelque chose qui doit procurer du plaisir aussi et de l'intérêt de la part du spectateur.
Quand est-ce que le film prend vraiment forme dans votre tête ?
I mean, this is like this is always a question.
Ah, c'est toujours ça la question.
With every film, I think that what I'm interested in. I mean, of course, there is there are the issues.
Bien entendu, il y a les différents problèmes. Et là, les problèmes, c'était, voici, les travailleurs qui ne sont pas représentés, dont la voix n'est pas entendue au niveau du gouvernement. Ils sont en lutte contre le gouvernement, mais aussi en lutte contre les gens pour qui ils travaillent, c'est-à-dire les grandes sociétés multinationales. Bon, ça, c'est le problème relativement facile à saisir. Mais moi, je m'intéresse aux gens. Donc, à mesure que je filmais, je recherchais les visages, les personnalités. Et je ne voulais pas une construction linéaire du récit, événement après événement. Non, je voulais suivre l'histoire avec les personnes qui vivent l'histoire. Par conséquent, je passais quelques jours avec une personne, puis quelques jours avec une autre personne. Parfois, il y avait plusieurs personnes en même temps, et c'est ainsi que le film est né. Parce que dans ce genre de situation, il y a énormément de répétitions. Il y a des choses qui se répètent jour après jour. Donc, j'ai eu de nombreuses occasions de tourner. Puis, dans la salle de montage, j'ai eu la possibilité de choisir les séquences qui portaient plus sur les personnalités plutôt que sur les informations liées aux événements qui se déroulait.
Jean-Marc Ducourtieu, vous avez l'air de l'avoir démasqué beaucoup plus vite qu'il ne le pense, Lech Kowalski. Il faut peut-être lui dire la vérité aujourd'hui. Il ne ressemblait déjà pas à un journaliste comme les autres.
Pas spécialement.
Non. Oui, il ne posait pas les mêmes questions.
Pas du tout.
Il n'en posait même pas du tout.
Voilà.
Il vous a suivi surtout. Donc en fait, visiblement, vous avez été démasqué beaucoup plus vite, Lech Kowalski, que vous nous le pensez.
Et la preuve, c'est que, je ne sais pas si vous pouvez voir dans le film, mais principalement, il était dans nos AG, dans nos assemblées générales. C'était le seul journaliste, en fait. C'était le seul à pouvoir assister à ça. Parce qu'on savait très bien que son travail allait être de longue haleine.
Est-ce que vous avez pu utiliser les images de Lech Kowalski pour votre lutte ? Parce que vous le dites, c'est une bataille d'images.
Disons que non, là, on a laissé faire son truc. Nous, on avait les nôtres. On a fait avec les nôtres, avec nos moyens du bord.
C'est une bataille des images. Je vous propose d'écouter le témoignage de Vincent Lindon, qui était dans le film « En guerre » de Stéphane Brisset, qui parle de cette bataille des images, utilisée là encore pour raconter, c'était une fiction, un conflit social.
Quand il y a un conflit social, immédiatement, les caméras de télévision et les radios arrivent. Ça pousse à la surenchère, ça pousse à la starification. On est rentré dans une époque où les grands leaders, que ça soit au moment de Florange, que ça soit au moment des Conti, les grands leaders deviennent des icônes, des figures symboliques, je pense à Xavier Mathieu, des stars, à leur manière. Parce qu'ils ont, ils sont l'emblème d'un combat. Il y a une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon d'haranguer les hommes politiques, une nouvelle façon familière de les tutoyer, de leur dire, bah, viens, viens, viens ici, même je t'attends, on t'attend, on t'attend. Et en fait, c'est une danse qu'on danse à deux.
Voilà, pas de leader ici, chez vous, Lech Kowalski, contrairement à la fiction En guerre de Stéphane Brisset, où Vincent Lindon incarne un leader syndical. Le film a aussi été présenté d'ailleurs à Cannes l'an dernier. Le leader, la figure de proue, c'est celui qui permet de capter la lumière et les caméras. Hein. C'est le porte-voix souvent du combat. Vous, vous avez voulu montrer un collectif.
From the very beginning... It was really my intention to make a collective film.
Dès le départ, je voulais faire un film sur un collectif et pas un film sur les éventuels leaders ou sur tel ou tel personnage important dans la lutte. Parce qu'au bout du compte, toutes les personnes en lutte faisaient partie de cette énergie. Et moi, je voulais montrer l'effort collectif. La raison, c'est que c'est ça qui manque dans notre société, c'est l'action collective. Et les gens ne croient plus trop à la politique, les mouvements sociaux tels que le communisme ou le capitalisme ont un petit peu perdu de leur signification. Donc les gens sont un petit peu déboussolés et ne savent pas comment s'organiser autour d'une idée ou d'une action qui pourrait incarner la lutte. Le monde est ainsi fracturé. Et ces travailleurs m'ont impressionné parce qu'ils fonctionnaient de manière vraiment collective. C'est rare d'assister à cela. Autre élément important, si vous le permettez, le rôle des médias. Moi, j'ai découvert cette action parce que Odile, la productrice, avait entendu à la radio qu'il se passait quelque chose chez les GMS. Sans cette information relayée par les médias, je n'aurais pas pu faire le film et je ne serais pas là à vous parler. Alors, les médias se décomposent en différentes catégories. Il y a les grands médias, les médias locaux, et les médias qui sont un petit peu dans l'entre-deux. Autrement dit, les médias qui couvrent les médias au niveau d'une région. En l'occurrence, tous les médias fonctionnaient ensemble. Et c'était étonnant de voir le rôle des médias dans une démocratie. Parce qu'il y a tout de même une érosion des médias. Les gens ne font pas autant confiance aux médias que dans le passé. Et là, dans la situation des GMS, j'ai pu observer les médias et comment ils fonctionnaient les uns par rapport aux autres. Les grands médias s'intéressent à certains sujets, les petits s'intéressent à d'autres, parce que les petits médias ont joué un rôle très important, parce que cette histoire, ils l'ont fait passer sans relâche dans la réalité du tissu français, et les grands médias ont repris. Mais sans les petits médias, l'histoire n'aurait pas pu être en lumière comme elle l'a été.
Le film pose aussi la question de la violence. La violence, malgré le titre, vous, les salariés, à ce moment-là, de GMS, vous y avez assez peu recours. On n'est pas venu là pour chercher la bagarre. On ne se battra avec personne, dit l'un d'entre vous, dans un face-à-face avec la police. À l'instant, Vincent Lindon évoquait Xavier Mathieu, cette figure des Conti, qui avait, lui, sur un plateau de télévision, rappelé qu'une chemise arrachée, face à un plan social, une vague de licenciements, c'était rien. Qu'il fallait parler aussi des suicides, qu'il fallait parler aussi de ce que ça provoquait dans la vie de toutes ces familles, un plan social. Et qui racontait que les puissants n'ont peur que d'une chose, c'est de la violence. Vous pensez, vous aussi, Jean-Marc Ducourtiot, après tout ce temps, qu'on n'obtient rien sans la violence, qu'au contraire, la violence, c'est quelque chose qui part toujours dans une escalade, qui au final n'apporte rien de bon que de la stigmatisation?
Ça, c'est une très bonne question, mais j'ai essayé d'y répondre assez courtement. Bah déjà, dans mon préambule, quand je vous ai dit pour faire venir les médias qu'on a piégé l'usine, c'est une forme de violence, on est bien d'accord. Mais ça, c'est uniquement pour intéresser les médias. Donc, on est toujours entre la violence et la non-violence pour essayer de faire avancer les choses. Parce qu'il y a des fois, il y a des oreilles, elles sont tellement sourdes qu'on est obligé d'arriver à des extrêmes pour se faire entendre. Parce qu'il y a un cri en bas et personne ne le voit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça la difficulté. Moi, nous, on n'a pas prôné la violence pour la simple et bonne raison, c'est que on allait déjà se retrouver au chômage. On n'allait pas non plus se péter après des procès à tire-larigot en veux-tu en voilà. Et en plus, se foutre des familles dans la merde. Donc moi, j'en aurais pas pris cette responsabilité-là déjà dans un premier temps, mes collègues non plus. Donc voilà, c'est ça le problème de la violence, c'est que vous la payez tôt ou tard, vous la payez cash. Je sais pas si vous avez vu comment on gère les gilets jaunes. Excusez-moi si je peux en parler, mais au niveau de la justice. Actuellement, ils en payent les pots cassés. Ils sont massacrés, judiciairement parlant. Hein. Et regardez les policiers, eux, ils sont pas massacrés du tout. Donc, s'il y a deux poids, deux mesures, quand on se bat contre un État, on est sûr de perdre. Donc, c'est pour ça que nous, la violence, on l'a pas prônée. C'est parce qu'on savait très bien le risque qu'on allait encourir le risque à nos collègues. Voilà, c'est tout.
Lech Kowalski, vous avez été arrêté aussi au cours d'une des actions des salariés à la préfecture de Guéret, interpellé pour rébellion parce que vous avez refusé d'arrêter de tourner à ce moment-là. La violence, pour vous, de quel bord est-elle dans un conflit comme celui-là?
Well, I mean, look, the title of the film, people hear the title and they think it's about...
Le titre peut laisser croire que les travailleurs sont violents envers leur usine et la société, mais le titre « On va péter » est à l'encontre du système, le système des grandes entreprises et le manque de gouvernement. Et ça, c'est une violence exercée contre le peuple, contre les gens. Et vous faites part de mon arrestation. En fait, j'avais pas de carte de presse, c'était ça. C'était ce qu'on me reprochait. Et là, c'était une violence contre la vérité, parce que ils ne pouvaient pas maîtriser mes images. Et les autorités n'étaient pas très heureuses des images que je tournais. Et donc, ils ont eu la possibilité de m'arrêter sous prétexte que je n'avais pas de carte de presse. Et cette arrestation visait à arrêter la vérité.
Lech Kowalski, votre film... On va tout péter, a été présenté au dernier festival de Cannes, à la quinzaine des réalisateurs. Vous y êtes venu d'ailleurs avec les salariés de GM et S qui vous ont offert une palme toute particulière à cette occasion. Qu'est-ce que c'était? Elle était faite en quoi, Jean-Marc Ducourtiou, cette palme offerte à Lech Kowalski comme un clin d'œil?
Elle était faite avec des pièces qu'on réalise, quoi, en fait. Donc, on a fait du recyclage parce que, bon, comme ils n'ont pas beaucoup de travail, mes collègues, ils ont fait du recyclage et puis ils ont fait chacun une palme. Je croyais, t'as eu deux palmes. Voilà.
It's an amazing sculpture made by Denny, and it's just incredible.
Sculpture incroyable, je dois dire.
On va écouter.
It is the best prize I've ever gotten.
C'est le plus beau prix que j'ai jamais reçu.
On va se retrouver sur la plage de Cannes avec le micro de là-bas si j'y suis et de Dila Tebi.
De minute en minute, des yachts, je sais pas combien de millions d'euros, qui sont par dizaines et par dizaines. C'est impressionnant. Il y a quand même deux poids, deux mesures. Je pense que la richesse, à un moment ou à un autre, va falloir la partager.
C'est triste. Ouais. C'est triste pour... Parce qu'on dirait que nous, on est à côté d'eux, on est des pauvres. C'est ça que ça me plaît pas trop, moi.
Gilbert et Nathalie qui sont en ouverture de votre film Lech Kowalski et qui sont là à Cannes avec vous pour la projection du film On va tout péter. Ils disent quelque chose qui renvoie à ce que vous exprimez dans ce film. Face à ces yachts, on a l'impression d'être des pauvres. Et c'est aussi cette idée-là que vous travaillez, Lech Kowalski, celle du déclassement, celle de la paupérisation de la classe moyenne. Et vous dites que c'est pas un phénomène propre à la France, mais qu'en sacrifiant cette classe intermédiaire, les pays occidentaux se tirent une balle dans le pied, parce qu'ils occupent aujourd'hui une place centrale dans la société. Ils produisent, ils consomment, ils se divertissent, comme nous, comme tout le monde, ils envoient leurs enfants à l'école. Qu'est-ce qui se passera dans nos sociétés quand cette classe moyenne aura disparu?
Well, I mean, I think that this is what the film is really about. It's about the struggle of...
C'est précisément le sujet du film. La lutte des classes moyennes et la destruction des classes moyennes. Dans une société, si les gens ne sont que des consommateurs et ne produisent rien, la société perd son identité. Et on se retrouve dans une société où les gens sont en quête de travail. Mais ce n'est pas le travail qui est important. Chez les GMS, on peut demander à Jean-Marc, mais c'est la façon dont ils fonctionnent qui est incroyable. C'est pas du tout une chaîne de montage. Et c'est ça qu'ils essayent de sauver. C'est pas simplement leur emploi, c'est un mode de vie, c'est une identité, c'est une fierté. Peut-être que tu peux en parler, de la façon dont tu parles, dont votre travail s'organise.
Ah ben c'est très simple, le travail est organisé plutôt en micro, on va dire, micro machine quoi. En fait, c'est parce que étant donné qu'on a énormément de pièces à réaliser, c'est pour ça que nous on n'est pas en chaîne, parce qu'il faut savoir c'est que nous rien que sur le site où on avait 22 000 mètres carrés couverts, on réalisait à peu près 6 000 références différentes. Donc c'est pas une chaîne, non, ça c'est sûr, c'est des petites machines à droite, des petites machines à gauche, et les gros tonnages aussi, parce que je parle des presses, les gros tonnages, voilà. C'est comme ça qu'on fonctionnait.
Et ce que le film montre, c'est votre attachement à l'usine, qui est presque comme une seconde maison. C'est l'attachement aussi à un territoire, alors ici la Creuse. Et c'est l'attachement aussi à une forme de travail que vous avez réalisée et défendue depuis plus de 30 ans. Vous dites, Lech Kowalski, dans le film, vous vous demandez s'il s'agit d'une révolte, s'il s'agit d'une révolution, s'il s'agit pas plutôt de la défense d'un mode de vie, parce que vous vous interrogez sur la nature de ce conflit. Et pour la première fois, vous n'employez pas le mot de citoyen, vous employez celui de consommateur. On en est là aujourd'hui.
Quand je construisais le film, je voulais que le spectateur voit ces travailleurs différemment et s'identifier aux travailleurs. Parce que dans la société, vous avez des catégories. Un tel est travailleur, une telle est infirmière, lui il est médecin, et ainsi de suite. Mais au bout du compte, dans notre société actuelle, nous sommes tous consommateurs. Oui. Et si l'on abandonne les choses que l'on consomme, est-ce que l'on pourra changer le système? C'est ça la question que je pose. Est-ce que le consommateur peut être un révolutionnaire? Et ça, c'est la grande question. C'est la question de notre avenir, de nous, êtres humains, et de notre société.
Je vais terminer sur des mots que vous prononcez durant ce documentaire, Lech Kowalski. Les entreprises n'existent-elles que pour faire de l'argent, au détriment des gens, au détriment de l'environnement, au détriment des gouvernements, incapables en réalité de gouverner? Que se passera-t-il quand les consommateurs seront devenus trop pauvres parce que les usines les auront abandonnés, leur préférant une main-d'œuvre moins chère et des profits plus importants? Voilà, c'est un film qui ne donne pas la réponse, mais qui amène aussi à réfléchir et à comprendre ce qui se joue tout autour de nous. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, Lech Kowalski. Merci mille fois à vous. Également, Jean-Marc Ducourtiou, d'être venu autour de cette grande table. Merci à Xavier Combe pour sa traduction, interprétation. Je vous rappelle donc que ce film sera diffusé ce soir sur Arte. On va tout péter, ce sera à 22h55 dans le cadre du festival du documentaire d'Arte qui a commencé hier avec le très beau Je ne suis pas votre nègre de Raoul Peck, qui se poursuivra encore demain avec notamment Berlin Tempelhof, dont viendra nous parler Karim Aynouz, son réalisateur, et ce jusqu'à jeudi.